RFI, 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Édouard Dupénoit pour le journal qui commence tout à l'ouest du Sahel.
En Mauritanie, en l'occurrence, les bureaux de vote doivent ouvrir dans une demi-heure pour l'élection présidentielle. La très vive émotion des associations guinéennes de défense des droits humains, des droits des femmes en particulier. Ces associations ne veulent surtout pas que les révélations d'agressions sexuelles sur de jeunes footballeuses passent à la trappe. Elles interpellent les autorités judiciaires. Des mesures, des apparitions, des annonces, mais pas de discours de politique générale pour Ousmane Sonko. Ça fait 3 mois, peu ou prou, qu'il est Premier ministre du Sénégal. Et les arguments qu'il invoque pour justifier ce délai sont bien loin de mettre tout le monde d'accord. Nous sommes aussi en Côte d'Ivoire à la fin du journal. 6% de croissance, dit la Banque mondiale, mais attention, le futur risque de ne pas être aussi souriant, faute de mesures adéquates.
Un peu moins de 2 millions de Mauritaniens appelés à élire leur président.
Et cela commence dans une demi-heure. Journée de vote dans ce pays du Sahel, le chef de l'État sortant, Mohamed Oulcheikh Razwani, a face à lui 6 autres candidats, des habitués, des vieux routiers de la politique, des nouveaux aussi, et un trombinoscope que parcourt Léa-Lisa Westerhoff.
Le président sortant, Mohamed Oulcheikh Razwani, ex-directeur de la Sécurité nationale, se pose en garant de la continuité et de la stabilité en Mauritanie. Parmi les 6 autres candidats qui appellent tous au changement, 2 ont participé aux dernières élections présidentielles. Le militant des droits de l'homme et député Biram Dahabeï, depuis longtemps engagé en politique, arrivé 2e lors des 2 dernières présidentielles. Et le candidat Mohamed Lemine El Ouavi, un haut fonctionnaire du Trésor mauritanien, ancien inspecteur des impôts. Les 4 autres prétendants sont tous des nouveaux visages de la politique mauritanienne. Le prédicateur Hamadi Oulsid El Mokhtar, candidat du parti islamiste Tawassoul, sa formation a décroché 14 sièges aux dernières législatives. Il y a aussi l'enseignant de mathématiques à la retraite, Mamadou Bokarba, et ex-inspecteur de l'enseignement secondaire, l'avocat et député El Id Mohamed N Barek et le professeur en neurochirurgie Outouma Soumaré. Tous les 4 sont pour la première fois candidats à la présidentielle. Léa-Lisa Westerhoff, Nouakchott, RFI.
Nous sommes aussi en ligne avec Léa Breuil, notre correspondante à Nouakchott, dans le prochain journal, dans une demi-heure, pour l'heure attendue de l'ouverture des bureaux de vote. Un choc et de profondes répliques en Guinée après les révélations des agressions sexuelles commises sur de jeunes footballeuses. C'est une enquête, d'abord publiée il y a 2 mois par un journaliste spécialisé. C'est aussi ce témoignage que vous avez peut-être entendu cette semaine sur nos ondes. Une jeune joueuse qui décrivait le système pédocriminel en place dans le centre de Nongo, à Conakry. Les associations de défense des droits des femmes laissent éclater leur colère. Elles exigent que la justice s'empare pour de bon de cette affaire. Le club des jeunes filles, leader de Guinée, demande au procureur de la République de s'autosaisir de ce dossier dont l'enquête patine depuis plusieurs mois. D'ailleurs, l'association elle-même porte plainte contre X et elle se dit prête à se constituer partie civile aux côtés d'une éventuelle plaignante. Oumou Gaïri Diallo est la directrice exécutive de ce club des jeunes filles leader.
Aujourd'hui, le cas de la FIDIFOOT est un exemple parmi tant d'autres. Et que ce soit l'opinion nationale et internationale, nous avons tous suivi des cas de violences sexuelles qui sont passés sous le silence, sur lesquels il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait. En dépit de tous les textes de loi qui existent, en dépit de toutes les structures aujourd'hui qui existent, qui doivent enquêter et être aux côtés de la population pour que justice soit rendue, malheureusement, si encore une fois la société civile, les organisations de promotion des droits des femmes ne se mêlent pas, ne pointent pas les dossiers du cas. Malheureusement, ça n'avance pas du côté de la justice. Et nous déplorons en tout cas un certain manque de volonté à ce niveau. Et la situation, elle est alarmante parce qu'aujourd'hui, nous peinons à avoir les résultats escomptés vis-à-vis de toutes les actions que nous menons sur le terrain. C'est parce qu'à un moment donné, toutes les parties prenantes de la chaîne de protection et de défense ne s'impliquent pas à la hauteur de leurs responsabilités pour parvenir à lutter contre ces violences-là.
La directrice exécutive du club des jeunes filles, leader de Guinée, propos recueillis par Sidi Yansané. L'actualité guinéenne marquée aussi par la mort en détention de l'ancien chef d'état-major des armées, Sadiba Koulibaly. Ce colonel mort il y a une semaine, alors qu'il était détenu au secret, 8 jours plus tôt, il avait écopé de 5 ans de prison ferme pour désertion et pour détention illégale d'armes. Le rapport d'autopsie fait état d'un arrêt cardiaque, peut-être consécutif à un psychotraumatisme et à un stress prolongé, mais le directeur de cabinet du président de l'UFR pointe encore de nombreuses zones d'ombre. Mohamed Tal l'explique à Pierre Firsion.
Sa mort reste très très mystérieuse, même si à la lecture du communiqué du parquet militaire, On peut imaginer qu'il a dû succomber aux tortures qui lui ont été infligées. Et de nombreuses interrogations subsistent qui entourent donc les circonstances de sa mort. Aucune communication officielle n'a indiqué son lieu de détention. Ensuite, l'annonce de sa mort a été faite le 25 juin, alors que selon le communiqué, il a trouvé la mort le 22. Pourquoi ce décalage ? Et il faudrait enfin élucider et éclairer l'opinion un peu sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a entraîné la mort du général ? Sa mort va très probablement ouvrir une page de doute, d'insécurité et peut-être même d'instabilité pour le pays, ce qu'on ne souhaite pas. Ça donne raison à ceux qui estiment que les militaires ne sont pas faits pour diriger un pays.
Mohamed Tall, qui est donc le chef de cabinet de Sidya Touré, lui-même à la tête du parti de l'UFR. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda se sont emparés hier après-midi de la ville de Kanyabayonga, cité de la province du Nord Kivu qui a connu de violents combats confirmés par plusieurs sources, dont la société civile du territoire de Lubero. Cette cité de Kanyabayonga est considérée comme un verrou stratégique de cette province de l'Est.
Près de trois mois après avoir été nommé Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko n'a pas encore prononcer son discours de politique générale.
Et d'ailleurs, il s'en justifie officiellement. Ce n'est pas qu'il ne veuille pas se soumettre à l'exercice, mais à ses yeux, les règles ne sont pas claires. Le chef du gouvernement pointe des incohérences dans le règlement de l'Assemblée, arguant que le poste de Premier ministre a disparu entre 2019 et 2021 et que le règlement de l'Assemblée n'a pas suivi ces évolutions. Mais ceux qui sont désormais opposants et qui sont encore majoritaires dans le pouvoir législatif ne souscrivent pas à ces explications, Juliette Dubois.
Ousmane Sonko explique qu'il ne tiendra sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, je cite, qu'une fois que la majorité parlementaire aura réinscrit dans le règlement intérieur l'ensemble des dispositions relatives au Premier ministre. En effet, il explique que ces dispositions ont été abrogées en 2019 avec la suppression du poste de Premier ministre et qu'elles n'ont pas été actualisées depuis la restauration de la fonction en 2021. Si le règlement intérieur n'est pas modifié par les parlementaires d'ici le 15 juillet, Ousmane Sonko annonce qu'il tiendra sa déclaration de politique générale devant une assemblée constituée du peuple sénégalais souverain, de partenaires du Sénégal et d'un jury composé d'universitaires, d'intellectuels et d'acteurs citoyens apolitiques. Les députés d'opposition du groupe Bénobok-Yakar, coalition de l'ancien président Macky Sall, qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, dénoncent un argument fallacieux et des subterfuges grotesques. Ils accusent Ousmane Sonko de défiance vis-à-vis des institutions démocratiques et demandent au président de l'Assemblée nationale de prendre ses responsabilités pour obtenir une date. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Il est 6h38 à Dakar, même heure à Bamako, le Mali, où les 10 figures politiques arrêtées il y a une dizaine de jours se retrouvent séparées les unes des autres. Ces membres de la déclaration du 31 mars, cette plateforme qui rassemble la quasi-totalité des partis politiques qui sont favorables à un retour à l'ordre constitutionnel, ne se trouvent plus à la maison d'arrêt de Bamako. Ils ont été transférés ces derniers jours dans différentes prisons à l'intérieur du pays. On rappelle qu'ils avaient été arrêtés lors d'une réunion politique et qu'ils sont accusés notamment d'opposition à l'exercice de l'autorité légitime, David Baché.
Ils sont trois dans la prison de Kenyiroba, à une soixantaine de kilomètres au sud de Bamako. Trois autres à Koulikoro, une soixantaine de kilomètres au nord. Les quatre derniers ont été transférés à Dioïla, 160 kilomètres à l'est de la capitale. Anciens ministres, hauts dirigeants de partis politiques maliens, ils resteront détenus et séparés donc jusqu'à la fin de la procédure qui les vise. C'est pour les empêcher de communiquer et ça complique les visites, explique l'un de leurs avocats. Mais sur le plan légal, c'est normal. Vu le surpeuplement des prisons, c'est quand même mieux comme ça. En avril, les autorités maliennes de transition ont suspendu les activités politiques dans tout le pays, invoquant l'ordre public. La défense juge cette interdiction contraire à la Constitution et conteste la légalité des conditions d'arrestation des 10 opposants. Actuellement, les personnalités politiques opposées aux autorités de transition pèsent chacune de leurs paroles ou se murent dans le silence par peur de la répression. Ceux qui prônent le plus ouvertement la désobéissance civile se sont résolus à l'exil ou à la clandestinité. L'ancien ministre Ousseini Amiongindo est quant à lui caché au Mali. Il ne faut pas compter sur l'oppresseur pour satisfaire les demandes de l'oppressé, déclare-t-il dans un message diffusé sur les réseaux sociaux avant d'appeler à résister.
David Baché, voilà enfin un chiffre qui aurait de quoi faire pâlir d'envie bon nombre de capitales. L'économie ivoirienne affiche un taux de croissance de 6% pour l'année 2023. Ainsi le dit le dernier rapport de la Banque mondiale sur le sujet. Cette institution de Bretton Woods qui met tout de même en garde. Si rien n'est fait, les conséquences du changement climatique pourraient réduire le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire de 13% d'ici 2050. Ce document a été officiellement présenté, remis hier aux autorités ivoiriennes. Et notre correspondant à Abidjan, Abdulaziz Diallo, rentre dans les détails.
Les voyants sont au vert pour la Côte d'Ivoire au plan économique. Le taux de croissance est établi à 6% l'an dernier, soit le double de la moyenne mondiale et celle de l'Afrique subsaharienne. On note également un net recul du taux de pauvreté. Des avancées qui risquent d'être compromises par les effets du changement climatique, prévient le rapport. Herman Youhou est l'économiste pays de la Banque mondiale.
En l'absence de mesures d'adaptation, la Côte d'Ivoire perdrait d'ici 2050 près de 13% de son PIB. Il y aura 1,63 million de pauvres supplémentaires d'ici. Cela revient à dire que la Côte d'Ivoire risque de s'éloigner de son objectif de développement si rien n'est fait.
La Côte d'Ivoire est bien consciente de ses défis climatiques, rappelle Niale Kaba, la ministre du Plan et du Développement. Une table ronde, dit-elle, a lieu début juillet afin de mettre sur pied un fonds de résilience et de durabilité.
Il s'agira de faire en sorte que nous puissions être pertinents sur les projets pour pouvoir mobiliser les importants montants de financement qui sont annoncés pour mitiger l'effet du changement climatique sur nos économies.
La Banque mondiale recommande à la Côte d'Ivoire d'accroître sa productivité agricole et renforcer son capital humain afin de maximiser l'impact de la réduction de la pauvreté. Abdulaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Abidjan, où il est 6h et bientôt 42 minutes. RFI Matin continue et c'est avec Julien Coquel-Roem.
Merci Edouard Dupénoit et vous, on vous retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau journal Afrique. À tout à l'heure.